Mémoire et paysage. Une série de 66 entretiens de Sylvain Faure avec André Tuboeuf. Aujourd'hui, épisode 39, Madame Wirtz.
Et c'est à cette occasion qu'il m'a fait faire une des connaissances, enfin, les plus importantes de ma vie strasbourgeoise. Il m'avait dit, il faut absolument que tu connaisses Madame Wirtz. Madame Wirtz est une vieille veuve strasbourgeoise qui ne vient jamais au théâtre, mais qui va à l'oratorio à Saint-Guillaume, qui a tout vu et qui a une collection de disques extraordinaires. Je vais te la faire connaître et tu la tues, tu l'assassines ou tu l'épouses. J'ai dit, écoute, l'assassiner, ça n'est pas vraiment dans mon goût. L'épouser, je ne vais pas pouvoir parce que je vais quand même me marier moi-même d'ici quelques mois. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Et ça a donné en fait une longue fréquentation, des années, une première année d'abord où j'étais seul à Strasbourg et où j'allais souvent chez Madame Wirtz écouter des disques. Et elle était absolument passionnée parce qu'elle connaissait des gens d'avant la guerre, elle aimait des voix d'avant la guerre. Et elle n'avait autour d'elle personne avec qui en parler. Elle parlait des gens d'aujourd'hui, avec les amis qui venaient la voir. Mais elle a été contente de pouvoir parler d'autres choses. Elle m'avait invité à venir chez elle écouter Daphné, qu'on passait à la radio et qu'elle ne connaissait pas du tout. Et par chance, moi, j'avais la partition. Alors, je lui ai dit, écoutez, Madame Wirtz, je vais venir et puis je vais apporter la partition, si vous voulez. Ah oui, elle disait, oui, nous allons nous asseoir à côté, nous allons être seuls et comme ça, nous jouirons mieux. Bon, voilà. Et elle faisait venir sa fidèle Berthe, qui était sa servante depuis de longues années. Et qui apportait une assiette de petits gâteaux, et je voyais, moi, dans son grand salon et dans ses immenses couloirs, une quantité de meubles, non pas à tiroirs, mais des meubles à rideaux, des meubles bureaux, avec cette espèce de truc roulant qui descend, et je savais qu'il y avait plein de 78 tours là-dedans. Et mon ambition était de m'en faire montrer, et qu'elle me les joue. Et alors, évidemment, elle en avait une vingtaine de méthodes à Heinemeyer, ce qui pour moi était simplement extraordinaire, parce que moi, j'en avais trouvé, moi, collectionneur, sur Paris et aux puces, j'en avais trouvé 2, 3, 4. Mais vraiment, la Heinemeyer, ce n'était pas la chose qu'on trouvait le plus facilement à Paris. Mais voilà, à Strasbourg, on pouvait. Elle avait les Tiana Lemnitz de la guerre, elle avait les Roswing de la guerre, elle avait les choses rarissimes qui portaient les numéros dans Electrola, qui est le His Master Voice allemand, les numéros à partir de 7500 ou alors les 5000, qui étaient les numéros spécifiques de la guerre, c'est-à-dire des disques qui avaient été publiés pendant la guerre en Allemagne, n'avaient eu aucun marché extérieur, et pratiquement tout de suite, au moment de la guerre totale, avaient été interdits pratiquement, parce que tous les matériaux étaient réservés pour l'effort de guerre, et déjà à ce moment-là, pour avoir un disque neuf, il fallait en donner 4 usagers simplement à titre de récupération du matériau de base. Bon, Madame Wirtz avait même les 2 disques, 3 faces, car il y avait un simple face, le rarissimissime concerto de Furtwängler, dirigé par Furtwängler avec Edwin Fischer au piano, enfin, qui était l'Araba Fenice des collectionneurs de disques. Donc moi j'étais là avec les yeux me sortant des orbites. Et écoutant tout cela, et je veux dire, développant une très affectueuse amitié avec Madame Wirtz, qui ensuite a accueilli avec la plus grande gentillesse et la plus grande hospitalité Marie-Josée, c'est-à-dire qu'on est allé la voir à 2, au lieu que moi j'y aille tout, toute seule. Et quand elle a déménagé, parce qu'elle a été obligée de déménager au bout d'un certain temps, la pauvre, ça avait été une femme, comme on dit là-bas, wohl situierte Witwe, une veuve bien située, qui aurait pu se remarier, mais enfin qui était restée fidèle à son juge de mari, dont elle était veuve. Et c'est une riche famille mulhousaine, et le mari était juge à Mulhouse. Et elle avait des immeubles à Strasbourg, et Strasbourg est une ville peu détruite et peu bombardée, mais par le fait, elle, sur les 5 immeubles qu'elle avait, il a dû en avoir 4 qui ont été démolis. Et il n'y avait pas de dommages pour ces choses-là, c'était vraiment le bombardement de guerre. Elle s'est donc retrouvée dans une situation finale beaucoup plus précaire, finalement obligée de déménager. Quand elle a déménagé, elle nous a donné vraiment un certain nombre de meubles. Moi, je me suis arrangé pour faire racheter son piano. Elle avait un très joli Bechstein, ancien Bechstein de 1912, qui était une délicatesse de son merveilleuse. Et je l'ai fait racheter par mon amie Monique Fondrentano, qui est venue à Strasbourg et qui en est devenue simplement folle. Elle l'a rapatrié à Paris. L'accident a fait que 2 ou 3 ans après, la table d'harmonie s'est fissurée et que voilà, ça a été comme ça. Mais enfin, c'est un piano qui méritait effectivement pareille destination. Et nous avons eu un certain nombre de meubles qu'elle nous a donnés. Et j'avais arrangé de toute façon, parce que je savais qu'elle ne pourrait rien en faire, de lui acheter en viager, mais pour une très petite somme, parce que de toute façon, elle n'aurait pas pu les vendre, et moi, il n'y avait pas de critères pour leur acheter. Ces disques étaient vraiment la prunelle de ses yeux, et la prunelle de ses yeux est même d'une façon très remarquable. C'est une histoire qui vaut d'être racontée. Elle aimait faire entendre les choses, elle aimait partager, et elle avait évidemment des visiteurs très divers. Il y avait des gens qui venaient chez elle à cause de Berthe, qui était en vérité sa bonne. Mais il fallait qu'elle ait des disques pour les amis de Berthe, qui aimaient entendre des Schlager à l'allemande, et des disques de Franz Völker peut-être, mais de Franz Völker chantant les Schlager qu'il chantait en 1936. Alors à côté de ça, elle avait un mouvement de symphonie, mais elle ne l'avait pas en entier. Et elle avait tous les disques des chanteurs qu'elle connaissait. Elle connaissait Erika Rokita, qui avait dû chanter à Saint-Guillaume avant la guerre, et donc elle avait tous les oiseaux lyres possibles d'Erika Rokita, y compris des choses de Wolf qu'elle n'écoutait jamais, mais elle avait acheté les Erika Rokita à cause des choses religieuses qu'elle chantait. Et puis pendant la guerre, elle achetait tout ce qui paraissait, simplement parce qu'il paraissait peu de choses et qu'il lui fallait de la nouveauté. Et elle faisait entendre comme ça, et c'était un petit peu frustrant de savoir qu'il y avait une truite par Schnabel, mais la moitié seulement. Mais enfin, Dieu merci, pour les 78 tours de chant, ça pouvait difficilement être divisé en deux, donc il y avait toujours des possibilités de ce côté-là. Elle était très amie de Marcel Meunlet, qui était professeur à Strasbourg à ce moment-là. Il y avait 2 professeurs de chant, qui étaient Marcel Meunlet et Germaine Hörner, qui a arrêté sa carrière, comme elle l'avait toujours promis, à 50 ans, et qui donc a quitté Paris à ce moment-là, et qui s'est replié sur Strasbourg, sa ville natale, où elle était au conservatoire. Bon, et j'ai donc fait la connaissance tout de suite de Marcel Meunlet et de Germaine Hörner. Hörner ne fréquentait pas chez Madame Wirth, mais Meunlet fréquentait. Et par conséquent, on avait les disques de Marcel Meunlet, pas les 2 ou 3 d'avant la guerre que j'aurais brûlé de connaître, notamment Ariane et Barbe Bleue, mais des poèmes pour Mie, dont personne n'aurait eu l'idée, que Madame Wirth détestait cordialement, mais elle se sentait obligée parce que les amis de Mademoiselle Meunlet, venant avec Mademoiselle Meunlet, pourraient avoir envie d'entendre Mademoiselle Meunlet. Voilà, et c'est sur ces critères-là, qui étaient le contraire de critères, que s'était construite sa collection. Donc évidemment, ensuite, il n'y avait rien à faire, tellement elle était disparate, mais je savais bien entendu que cette collection qui était peut-être d'une dizaine de milliers de 78 tours, contenait 200 disques d'un intérêt pour moi primordial. Des disques de chant dont, et j'ai dit 200 intéressants, et 30 ou 40 sans prix. Qui étaient vraiment les raretés absolues de la guerre, le duo de Lemnitz et Rosweng dans L'Enchanteresse de Tchaïkovski devenu Litzauberin, les deux disques, les deux airs du troubadour par Tiana Lemnitz, et elle l'appelait d'ailleurs La Tiana Lemnitz, elle ne disait pas, elle disait La Tiana, elle sait faire le piano. Ce n'est pas comme la calasse qui est toujours aigre, avec du vinaigre. Voilà. Bon, elle avait un jugement absolument selon son oreille, et qui était à cet égard parfaitement correct. Voilà, et c'est donc les premières personnes que j'ai connues.
Retrouvez tous les épisodes de ces entretiens sur la page kobuz.com/tubeuf.